Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
L'Irak dans la tourmente face à l'offensive d'envergure de l'État islamique en Irak et au Levant et l'impuissance de l'armée à la contenir. La population se sent livrée à elle-même. Vous entendrez l'évêque latin de Bagdad. Coup d'envoi du mondial 2014 avec en toile de fond la grogne face aux inégalités sociales criantes alors que le Brésil a investi 11 milliards de dollars pour réussir cette grande fête du football. Le pape François souhaite que cet événement célèbre la solidarité entre les peuples dans la sérénité et le respect. La malnutrition est responsable d'environ la moitié de toutes les morts d'enfants de moins de 5 ans, soit plus de 3 millions de décès chaque année. Le directeur général de la FAO a lancé ce jeudi un cri d'alarme à Rome. La nutrition demeure un enjeu pressant et une tâche complexe. Graziano da Silva accueillera le souverain pontife au siège de cette organisation onusienne, probablement le 20 novembre. Au sommaire également, un message sans détour des évêques gréco-catholiques d'Ukraine. Ils demandent le droit à l'autodétermination et à l'intégrité territoriale, culturelle et ecclésiale, brutalement violée dans le passé et aujourd'hui dévaluée. Le pape François souhaite à tous une très belle Coupe du Monde de football jouée dans un esprit de vraie fraternité. Grand amateur de football et supporter affiché du club San Lorenzo en Argentine, le Saint-Père a envoyé un message vidéo aux fans, comme lui, de ballon rond, mais aussi aux organisateurs et participants du Mondial à l'occasion de son coup d'envoi ce jeudi au Brésil. Un événement au-delà des frontières linguistiques, culturelles ou nationales, relève-t-il. Une fête sportive, certes, mais le pape François espère qu'elle soit également une fête de la solidarité entre les peuples. Marie Duhamel.
À condition de prendre les parties de football pour ce qu'elles sont, à savoir un jeu et une occasion de dialoguer pour se comprendre et s'enrichir réciproquement, le football est pour le pape François bien plus qu'un divertissement, c'est une école de paix. Nombreuses sont en effet pour lui les valeurs exaltées par ce sport. Il cite la persévérance, la loyauté, l'amitié, le partage, des valeurs qui promeuvent le bien commun et permettent ainsi de construire la paix. Mais comment donc ? Eh bien, le pape met en lumière trois leçons clés de la pratique sportive, l'entraînement, le fair-play, le respect de l'adversaire. L'entraînement est nécessaire, dit-il, si l'on veut obtenir des résultats et dans la vie, c'est la même chose. Des sacrifices sont nécessaires pour grandir en vertu. Le fair-play permet lui de dépasser l'individualisme. Pour jouer en équipe, souligne le pape, il faut en effet d'abord penser au bien du groupe, abolir ainsi tout racisme, égoïsme, intolérance, exploitation de l'autre, qui sont des obstacles évidents au succès. Enfin, le football, c'est le respect dû à son adversaire, car sur le terrain de foot comme dans la vie, personne ne gagne jamais seul. D'ailleurs, si nous mettons ces trois leçons en pratique, ceux qui brandiront la coupe ne seront pas les seuls à triompher. Nous serons tous vainqueurs, nos liens seront renforcés. Prière et bénédiction, le pape espère enfin que le mondial de foot se déroulera dans la sérénité et la tranquillité, dans le respect réciproque, la solidarité, la fraternité entre les hommes et les femmes qui se reconnaissent comme les membres de l'unique famille humaine.
Pendant un mois, le Brésil va donc vivre au rythme du mondial, mais l'événement sportif de l'année a aussi donné lieu à des manifestations et des grèves à travers tout le pays. Les manifestants reprochent aux autorités d'avoir dépensé des milliards de dollars pour le mondial au lieu de les investir dans les transports, la santé ou l'éducation. Des dépenses faramineuses critiquées sévèrement aussi par l'Église brésilienne. Elle déplore qu'aucune mesure de lutte contre la pauvreté n'ait été prise et elle craint que la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle, un fléau très répandu au Brésil, s'accentue à l'occasion du mondial. Monseigneur Dominique Marillou est l'évêque de Conceição do Araguaia dans le nord du Brésil. Il regrette l'absence de réaction face aux demandes de la population.
Les manifestations, au commencement de façon assez spontanée, et puis finalement peu à peu s'organisant, etc., n'ont pas été entendues, il faut être sincère. On a fait semblant de les entendre, et on n'a pas réellement répondu aux attentes de ce million de jeunes qui sont passés dans la rue, finalement, dans les divers mois passés.
Et que craignez-vous qu'il se passe en marge de la Coupe du Monde ?
Notre jeunesse est très très vulnérable au tourisme sexuel. On perdra beaucoup de nos enfants. Appeler tant de touristes à la fois en n'étant pas capable de les contrôler, de les dominer, pour être sincère, on sait que ça va laisser des traces graves dans le pays. Et ça n'est pas que autour des stades. C'est le Brésil entier qui porte cette plaie. De très lourds points d'interrogation sont posés dans une situation sociale et politique qui n'est pas très brillante. Ça fait déjà 3 ans qu'on sent que le progrès qui a commencé au Brésil est un peu en train de patiner et que finalement la Coupe du Monde arrive dans une période très défavorable. Craindre ou pas des manifestations violentes pendant la Coupe du Monde, je crois que pour le moment, personne ne peut répondre à cette question. J'ai 2 chiffres dans un sondage qui est sorti il y a quelques jours seulement. 54% des Brésiliens qui considèrent que la Coupe va apporter plus de préjudice que d'avantages. Et le deuxième aspect, qui est bien complémentaire et typique du Brésil, 65% des Brésiliens qui auraient honte si le mondial était perturbé par les manifestations.
Quel rôle a prévu de jouer l'Église pendant le mondial ?
Elle a édité un tract qui fait des vagues. Il commence par désigner un certain nombre de cartons rouges. Préoccupation, l'exclusion de millions de citadins, l'éloignement de familles et de communautés pour la construction d'œuvres gigantesques, l'approfondissement des inégalités. Et puis, on explique aussi ce que serait la victoire que réellement les populations des quartiers et les personnes en situation de rue puissent être protégées, que la législation du travail s'applique à l'égard de tous ceux qui vont travailler directement ou surtout indirectement autour de la Coupe du Monde, que des actions efficaces soient faites pour empêcher le travail esclave, la traite d'êtres humains, que les mouvements sociaux ne soient pas criminalisés, mais que soient respectés leurs droits à des manifestations de rue. Comme parole, je crois positive, et que je vois aussi, il y a des jeunes, et j'en ai dans mon diocèse, qui, venant à la Coupe du Monde, passent un mois dans le diocèse pour aider auprès des plus pauvres.
Et pour terminer, est-ce que vous avez un appel à lancer ?
Ce serait que cette Coupe du Monde au Brésil, elle fasse réfléchir sur les prochaines Coupes du Monde. On ne peut pas laisser un loisir se dérouler dans l'absurdité. Les choses ont un sens. Si on ne respecte pas le sens des choses, on détruit tout et on se détruit soi-même. Le loisir, comme le sport, il est fait pour construire la personne humaine. Il est fait pour construire la fraternité, non pas pour la détruire. Et il est très certain que la FIFA a besoin de se mettre à l'heure de l'éthique. Et peut-être que la Coupe du Brésil peut provoquer ce réveil de la conscience pour que l'éthique soit considérée comme la première et que les intérêts financiers se mettent au service et non pas au préjudice de la dignité de la personne humaine et de la paix et de la fraternité que le sport vise et sait si bien promouvoir.
Monseigneur Dominique Marie Yu, interrogé par Audrey Radondi. 2 ans et demi après le retrait américain en Irak, l'avancée des rebelles islamistes menace l'intégrité du pays et risque de déstabiliser un peu plus la région. Les insurgés sunnites se sont emparés de larges portions de territoire à la suite d'une offensive fulgurante face à une armée en déroute. Et ces derniers jours, les villes sont tombées une à une. Des centaines de milliers de personnes sont en fuite dans le dénuement le plus complet. Parmi les victimes de cette escalade de violence, les chrétiens, une communauté réduite à peau de chagrin qui suit avec effroi l'accélération des événements. Selon la communauté catholique romaine Sant'Egidio, des lieux de culte, des églises et des couvents ont été incendiés. À Mossoul, il y avait 35 000 chrétiens en 2003. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Nous avons contacté par téléphone Mgr Jean-Benjamin Sleiman, archevêque latin de Bagdad.
Je pense que ce coup dur à toute la leadership irakienne va peut-être mettre plus de consensus entre les leaders, former un gouvernement, etc. Enfin, tout ça, c'est, je pense, hein, ça peut être le résultat de ce choc.
Donc, vous seriez pour la formation d'un gouvernement d'union nationale ?
Ah ben, certainement, mais un vrai, parce que on est quand même dans des pays, dans des sociétés, dans la structure profonde. Des structures verticales, des divisions et professionnelles tout le temps, une mentalité tribale, tout ça, c'est pas, je veux dire, on peut pas lui appliquer toutes les règles d'une société, c'est pas à l'occidental, quoi.
Ce qui arrive en ce moment n'est pas sans rappeler les années noires, hein, 2006-2007, avec la guerre confessionnelle entre sunnites et chiites, qui a fait des dizaines de milliers de morts. Oui. On sait aujourd'hui que les chiites n'excluent pas l'idée de prendre les armes. Est-ce qu'on va vers une guerre civile ?
En tout cas, on sait quand ça commence, on ne sait pas comment ça va se développer ni quand ça va finir. Mais il y a un appel à porter les armes aussi par des leaders sunnites contre les miliciens. Le gouverneur de Ninive a demandé à tout le monde de s'armer, de défendre la ville, etc. Donc ça peut être plus une alliance qu'un conflit. Hein.
Et les chrétiens d'Irak dans tout ça ?
Vous les avez vus. Eux aussi sont terrés dans leur maison, dans leur peur. Et notre crainte, c'est que l'immigration qui est un exode donc va augmenter quoi.
Vu toutes les atrocités que l'on sait que les djihadistes commettent en Syrie, est-ce que vous avez une crainte particulière?
Certainement. C'est-à-dire, on a l'exemple de la Syrie, donc il y a beaucoup d'atrocités. D'ailleurs, des soldats ont été, comment dire, là, justiciés sauvagement ces derniers jours. Donc toutes les horreurs sont à prévoir. Mais il faut dire aussi que dans ce genre de choses, il n'y a pas que les Irakiens. Il faut chercher qui a intérêt à ça, soit dans la région du Moyen-Orient, soit ailleurs. Enfin, disons, les choses ne se font pas seulement ici. Excusez-moi, le terrain fertile à ce genre d'opération, c'est l'Irak, mais les interventions, ceux qui veulent vraiment téléguider tout ça, on les voit pas. On les voit pas et ils sont puissants parce que ce coup de Mossoul et de Ninive et peut-être d'autres endroits est un coup de maître. Il n'est pas fait simplement par des miliciens.
Donc vous pensez qu'ils reçoivent une aide extérieure très importante?
Oh, les services de renseignement sont les diables de notre temps. Ce sont les princes de notre temps, donc il faut pas les oublier. On les voit pas, on peut pas les contrôler, mais ils existent. Ils existent. Il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas comme ça spontanément, quoi. C'est pas que les miliciens se sont réveillés un jour, ils ont occupé. Et il y avait plus de 60 000 soldats et policiers dans la province de Ninive. Et c'était pas possible, comment dire, là, de les vaincre comme ça. Pourquoi ils se sont retirés? Pourquoi des généraux qui ont déserté? Enfin. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Donc, je ne les connais pas toutes, je n'en connais pas les réponses. Mais il y a un climat de doute sur, je dirais, la tenue des soldats, des policiers, etc. Donc, des leaders aussi, enfin, on ne sait pas qui.
Mais alors, quel serait le but ultime de ceux qui sont derrière ces djihadistes?
Vous savez, nous sommes menacés depuis des années par des partitions du pays, une refonte du Moyen-Orient, tout ça. On parle souvent du changement des frontières de Sykes-Picot, le fameux accord au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et il y a beaucoup d'intérêts dans la région, des intérêts géopolitiques, économiques, financiers, tout ça. Donc le terrain irakien est fertile parce que les gens vivent de façon très archaïque. On est encore victime de son appartenance ethnique, de son appartenance confessionnelle. Il y a rarement des leaders qui essaient d'illuminer leur peuple. Les sociétés d'aujourd'hui ne doivent plus être basées sur l'ethnie, sur la confession religieuse. Et il ne faut pas accepter qu'on tombe dans le piège d'une guerre sunnite-chiite tout le temps. Donc, comme ça arrive, voilà, il y a beaucoup de choses à révéler. Mais nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de forces destructrices pour leurs intérêts. Je crois que le cri du pape sur le lieu du baptême en Jordanie, contre les vendeurs d'armes, contre et d'autres semblables. Moi, je crois qu'il est toujours, il est valable pour ici et pour ailleurs.
Monseigneur Sleiman, vous êtes donc sur les ondes de Radio Vatican. Est-ce que vous désirez lancer un appel?
Vous savez, notre appel, notre désir profond, c'est vraiment la paix. Moi, je souhaite que les Irakiens, aujourd'hui, s'unissent. Parce que leur conflit, leur guéguerre, etc., c'est pas sérieux, tout ça. Hein. C'est vraiment l'unité de leur pays, c'est l'entraide entre eux, c'est la bonne répartition de leurs ressources qui sont énormément immenses et riches, etc. Moi, je crois qu'un peu plus de raison et moins de sectarisme tribal ou religieux.
C'était Mgr Sleiman, archevêque latin de Bagdad. En Ukraine, le synode permanent des évêques gréco-catholiques a invité les fidèles à prier pour la paix et la réconciliation basée sur la justice. Dans un message, les évêques reviennent sans détour sur les principaux événements de ces 10 derniers mois, des événements dramatiques, mais tout compte fait, stimulants. Manuela Afigi.
Malgré des obstacles en tout genre, des millions d'Ukrainiens ont manifesté pacifiquement en forgeant une solidarité interethnique, interconfessionnelle et interculturelle. Selon l'Église gréco-catholique, l'Ukraine est passée de la peur à la dignité et à l'intégrité. Pendant ce long pèlerinage, la solidarité morale et spirituelle des fidèles s'est révélée cruciale. Orthodoxes, catholiques, protestants, juifs et musulmans se sont en effet tous prononcés contre la violence et pour le dialogue et le respect des droits de chacun. Les évêques rendent grâce pour cette unité prophétique. Ils remercient également le pape François pour ses des exhortations à la paix et à la justice. Le message affirme encore explicitement que l'Ukraine est un pays renouvelé. La société civile renouvelée défend son pays et le bien commun. Les citoyens disent non à la tyrannie, à l'illégalité et à l'irresponsabilité, personnelle ou sociale, locale ou internationale. Il y a quelques jours, un haut responsable du patriarcat orthodoxe de Moscou avait affirmé que les agissements des gréco-catholiques avaient porté gravement atteinte non seulement à l'Ukraine et à ses habitants, mais au dialogue entre les orthodoxes et les catholiques. Le métropolite Hilarion, chef du département des relations ecclésiastiques extérieures du patriarcat de Moscou, avait eu des mots très durs contre la hiérarchie gréco-catholique, l'accusant d'avoir fortement contribué à la polarisation de la société et à l'exacerbation du conflit.
Le pape François interviendra à la deuxième conférence internationale sur la nutrition qui se tiendra du 19 au 21 novembre à Rome, sous les auspices de la FAO et de l'OMS. Le directeur général de la FAO, Graziano da Silva, l'a confirmé au cours d'une conférence de presse ce jeudi. Depuis la première conférence internationale sur la nutrition, il y a 22 ans, les pas accomplis en matière de lutte contre la faim et la malnutrition ont été, de l'aveu même de la FAO, insuffisants et inégaux. Antonino Gallofaro.
La sous-alimentation n'a reculé que de 17% depuis le début des années 90. La FAO et l'OMS demandent un engagement politique ferme de la part des gouvernements pour affronter la malnutrition qui touche des centaines de millions de personnes dans le monde. Or, l'Église est perçue comme un allié précieux. Les chrétiens sont en première ligne dans la lutte contre l'exclusion sociale, la misère et la faim, et ils comptent continuer à offrir leur contribution. L'observateur permanent du Saint-Siège auprès de la FAO a expliqué que c'était dans ce cadre qu'il fallait situer la participation du Saint-Père à cette conférence intergouvernementale, d'autant que selon les instances onusiennes, les efforts déployés pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle continuent d'être freinés par des questions de gouvernance. Parmi les enjeux fondamentaux figure la volatilité des prix internationaux des denrées alimentaires, la faible productivité agricole accentuée par le changement climatique, ainsi que le gaspillage alimentaire. Les participants à la conférence du mois de novembre analyseront entre autres les conséquences sur la santé et l'environnement de l'augmentation rapide de la demande de viande et d'autres produits d'origine animale. Autant de défis que le Vatican suit de près.
Ce jeudi matin, le pape François a présidé un consistoire ordinaire public pour la canonisation le 23 novembre prochain de 6 nouveaux saints. Parmi eux, deux indiens du Kerala, un carme de Ritsiro Malabar, Kuriakos Elias Chavara, qui a défendu l'unité ecclésiale dans les années 1860 alors qu'un schisme menaçait de couper son église de Rome. Et Euphrasie du Sacré-Cœur, surnommée la Mère qui prie, qui était la supérieure de la première famille religieuse féminine de Ritsiro Malabar, fondée justement par Kuriakos Elias Chavara. Les quatre autres nouveaux saints sont tous italiens, parmi eux un évêque, Giovanni Antonio Farina, fondateur au XIXe siècle des Sœurs de Sainte Dorothée. Homme de charité, il consacra une attention particulière à la formation de la jeunesse et aux soins des indigents et des laissés pour compte, répondant aux graves besoins sociaux de l'époque. Fondateur lui aussi de congrégation, le franciscain Ludovic de Casoria est connu pour son engagement en faveur de la libération des enfants africains vendus comme esclaves et pour ses œuvres en vue de l'évangélisation de l'Afrique. Il a aussi fondé des revues pour remédier à l'ignorance spirituelle et à la pauvreté qui caractérisait la région de Naples au XIXe siècle. C'est au XVIIe siècle que vécut en Calabre Nicola da Longobardi. Il passa sa vie dans l'ombre et l'humilité, mais sa piété le rendit célèbre auprès de ses frères et ses miracles dans toute l'Italie. Enfin, la liste s'achève par un laïc italien du tiers ordre franciscain, Amato Ronconi, un ami des pauvres, fondateur au XIIIe siècle d'un hôpital hospice pour les plus démunis, auxquels il laissa tous ses biens. Et pendant ce même consistoire s'est déroulée la passation de fonction du protodiacre, le cardinal français Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, cède cette charge au cardinal italien Renato Raffaele Martino, président émérite du Conseil pontifical Justice et Paix. Le bureau de presse du Saint-Siège a toutefois précisé que le cardinal Martino, qui est âgé de 81 ans, ne serait pas chargé, en cas de conclave, d'annoncer le nom du nouveau pape et de prononcer la célèbre formule de l'Habemus Papam depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. Cette tâche serait réservée au premier des cardinaux diacres électeurs, en l'occurrence à l'heure actuelle, le cardinal américain William Joseph Levada, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le cardinal Torrent, qui avait annoncé l'élection du pape François le 13 mars 2013, quitte cette charge puisqu'il passe, avec 5 autres membres du collège cardinalis, de l'ordre des cardinaux diacres à celui des cardinaux prêtres. Le collège des cardinaux compte actuellement 213 membres, dont 118 électeurs en cas de conclave. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.